matin, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h40. Les coulisses de l'info en ces temps où l'argent magique coule à flot. Ben, c'est un chèque colossal quand même que le président de la République s'apprête à signer aux forces de l'ordre, 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le budget de l'intérieur l'an prochain, sur un budget de 27,5 milliards. 1,5 milliard, c'est quand même conséquent. Vous me direz, on est tellement habitué au chèque à 10 euros que 1,5 milliard, après tout, c'est pas grand chose, hein, pour acheter de nouvelles voitures aux forces de l'ordre, pour rénover les commissariats, des nouveaux polos aussi, hein, parmi les annonces un petit peu superficielles. Il y a des choses beaucoup plus structurantes qui ont été annoncées hier par le chef de l'État. Toutes ces annonces, vont-elles changer la sécurité des Français, qui est une préoccupation majeure? Ça ressort dans toutes les enquêtes, dans tous les sondages. Deux invités pour en parler ce matin avec nous. Bonjour Céline Parizeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de l'Union syndicale des magistrats. C'est le premier syndicat de l'ordre judiciaire. On va parler avec vous de l'articulation police-justice qui fait partie des thèmes qui ont été très brièvement abordés ces derniers mois, alors que ça a été le sujet central des discussions depuis 6 mois pratiquement autour de ce Beauvau de la sécurité. Vincent Trémollet de Villers, par ailleurs, est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Dimitri.
Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. On va évacuer, Vincent, d'emblée la dimension politique de ces annonces du président de la République. La presse nous dit ce matin, tout ça arrive bien tard. Il y a une loi de programmation qui va être présentée dans quelques mois. Techniquement, elle ne pourra pas être adoptée avant la fin du quinquennat, donc tout ça est reporté à après la présidentielle. Malgré tout, cette enveloppe d'1,5 milliard annoncée par le président de la République, qu'est-ce qu'on va en faire très concrètement de tout cet argent?
Ben, je pense que d'abord, faut préciser qu'en début de campagne électorale, tout le monde aime la police. Au meeting de la fête de l'humanité, tout le monde la déteste. Mais pour les candidats qui veulent gagner à droite, tout le monde aime la police. Donc nous avons assisté hier à un discours qui est un discours de campagne électorale prononcé par un président de la République. Et la première question que ça pose, moi il me semble, en ayant beaucoup réfléchi depuis qu'Emmanuel Macron a parlé, c'est la question de la parole publique face à la crise que nous vivons. Je m'explique. La France vit une crise politique, presque de civilisation, sur la question de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, à tous les échelons de la société, est en dislocation. C'est une vérification que chacun peut faire, à l'école, dans la rue, avec la police, avec la justice, dans les entreprises, etc. Et à cette réponse, on donne, à cette crise, on répond par un discours catégoriel et budgétaire. C'est ce qu'a fait hier le président de la République en s'adressant uniquement aux policiers. On aurait pu imaginer une réflexion sur la chaîne pénale avec un discours qui s'adresserait aux policiers et à la justice. Alors peut-être y aura-t-il un discours catégoriel et budgétaire devant les magistrats pour les états généraux de la justice. Mais il me semble que l'on peut discuter, et on va le faire, et c'est très intéressant, de chacune de ces propositions, mais que quand elles sont prononcées par quelqu'un qui est au pouvoir depuis 4 ans, qu'il aurait pu les faire avant, qu'on ne sait pas s'il pourra les faire puisque certaines ont pour objectif 2030, la première question que l'on doit se poser, c'est comment la parole publique est-elle utilisée pour affronter la crise que nous vivons. Je crains que dans l'exercice prononcé hier soir, la petite politique technicienne ait obtenu ses objectifs, mais plus profondément, on n'a pas avancé d'un pouce.
Céline Parizeau, je vous ai vu sourire, rire jaune un petit peu quand Vincent Trémollet de Villers disait à l'instant que peut-être vous aussi, à la justice, auriez-vous droit à ce gros chèque qui a été annoncé pour les forces de l'ordre, puisque des états généraux de la justice doivent démarrer dans quelques semaines. Alors on disait que le Beauvau c'était déjà tard, vous c'était extrêmement tard, c'est l'after. Hein.
Oui, les magistrats sont absolument pas dupes du discours qui a pu être tenu hier, notamment sur les aspects simplification, puisque pour aider magistrats et gendarmes et forces de l'ordre, policiers à faire leur travail, il faudrait simplifier drastiquement la procédure pénale. J'observerai simplement que les deux dernières lois et le projet qui est actuellement en cours de discussion de ce quinquennat en matière pénale ne font que rendre la procédure pénale plus complexe.
Qu'est-ce que c'est la procédure pénale? La question vraiment basique, parce que pour plein de gens, on entend ça, mais on sait pas.
Ce sont tout simplement les garanties qui entourent un procès pénal. Donc on vous garantit que vous avez droit à...
Les conditions de votre arrestation, vos droits, etc.
Vos droits à un avocat, vos droits à garder le silence, les délais dont vous pouvez bénéficier pour faire des recours. Voilà, c'est ça la procédure, c'est le cadre dans lequel vous allez être jugé.
C'est le problème français en matière de sécurité. Pour les Français, c'est le problème numéro un, pensez-vous, Céline Parizeau?
Je ne pense pas, non. Je pense que la procédure, effectivement, elle est complexe parce que les droits que l'on a dans le cadre de cette procédure pénale sont rendus de plus en plus complexes par le cadre européen dans lequel on est. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc, simplifier la procédure à un moment où l'Europe la rend plus complexe, justement pour donner plus de droits et plus de garanties aux personnes jugées, c'est une chimère. Je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent être simplifiées au moment de l'enregistrement de ces procédures par la police, c'est-à-dire au moment où la plainte est déposée, au moment où les personnes sont entendues par la police, où effectivement, il y a des phases qui sont très longues, telles que la retranscription de tous les propos des personnes interrogées, qui n'est peut-être pas totalement indispensable. Il y a des possibilités de réflexion, mais je tiens quand même à rappeler que la réforme, par exemple, du code de procédure pénale, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a mis 5 ans à être faite. Hein. Donc ce n'est pas en 3 mois, comme il demande au ministre de le faire, qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit.
Alors, il y a plein de choses là. Vous avez
des choses savoureuses que l'on a entendues, notamment sur cette question de simplification de la procédure. Quand on voit que c'est quand même le gouvernement qui a inventé une exception française et mondiale, qui est l'attestation dérogatoire de déplacement que les policiers ont dû vérifier quand les gens allaient promener leurs chiens. C'est quand même ça que l'on a vécu. Donc tenir après un discours de simplification à quelque chose de, à mon avis, d'un peu outré. Et c'est ce qui m'a semblé aussi, si on prend un certain nombre de formules, même le principe philosophique établi au début par le président de la République, disant « la liberté est la première des sécurités ». Je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase. La liberté est un droit de l'homme. Elle est définie dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais la sécurité est un droit de l'homme, pardon. Mais elle est la condition de la liberté. Mais elle n'est pas la liberté. Et quand on dit qu'on va doubler le nombre de policiers, moi je pense qu'il y a une très grave crise d'autorité en France, que la délinquance galope, qu'il y a des quartiers entiers où la police ne peut pas aller, qu'il y a un très grand problème de manque de places de prison. Mais l'objectif final de nos existences n'est pas de voir beaucoup plus de policiers à la fin. La vie tranquille, ça n'est pas ça. Et c'est là où, dans l'articulation du propos, la dimension catégorielle, la dimension « je veux du bleu partout » altère. La volonté du président de la République, parce que c'est ça la volonté finale, de se présenter comme quelqu'un qui a pris en compte cette inquiétude qui traverse le corps social français. Il me semble que l'ampleur de la vision devrait être beaucoup plus profonde, beaucoup plus fine, et tout fait à la fois à l'école, à la justice, à la police et à la désaffiliation civique, qui est quand même un des problèmes que la France vit aujourd'hui.
Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, est avec nous. Céline Parizeau, également la présidente de l'Union syndicale des magistrats. Tiens, je vous poserai une question juste après cette rapide coupure. Et Céline Parizeau, on va revenir quelques mois en arrière quand les policiers nous disaient que le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que c'est encore le cas? Y a-t-il eu réconciliation? Question toute simple, mais je pense qu'elle est importante puisque je sens une certaine tension en vous, Céline Parizeau. À tout de suite.
Europe 1. Pour ses 60 ans, le groupe Matmut formalise sa raison d'être, fruit d'un travail collectif mené à l'occasion d'une grande consultation auprès de ses sociétaires, délégués et collaborateurs. Découvrez-en plus dans quelques instants.
Bonjour messieurs, dames. Merci de votre patience. On fait au plus vite.
Léa a besoin d'embaucher un boulanger expérimenté car, vu le succès de sa boulangerie, elle a du pain sur la planche. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidat et de consulter les CV qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
À tous ceux qui n'ont jamais trouvé le moindre billet par terre dans la rue, ni même dans la poche d'un vieux jean, ni même quelques centimes oubliés dans la machine à café, et aux mêmes qui se disent que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. La chance va tourner. En ce moment, il y a plus de 4 millions d'euros en cartes et bons d'achat à gagner chez Intermarché. Tentez votre chance en scannant votre ticket de caisse à la borne du magasin. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 octobre, carte d'achat d'une valeur de 50 €, modalité sur intermarché.com.
L'optimisme, y'a que ça de vrai.
À condition de rendre l'hybride accessible à tous.
6 990 €.
Tu délires.
Non, je débride. Comme Fiat débride l'hybride avec Panda, des 6 990 € et garantie 10 ans.
Ah quand même, mais à condition qu'il y ait un intérêt.
Ah, si tu parles crédit, chez Fiat, le taux d'intérêt est tout mini.
Oui, enfin, à condition...
Arrête avec tes conditions, pense solution. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Profitez de Panda hybride des 6 990 €, car l'optimisme mais toujours
la solution.
Stock prêt à partir pour Panda 1.0, prime conversion déduite jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant.
Fiat.
Ikea.
Cool, enfin la rentrée, j'en pouvais plus de ces vacances.
Toi, t'as surtout envie d'essayer ta nouvelle table d'ordi.
Ouais, j'avoue.
Boostez votre rentrée. Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme la table ordinateur Fielbo en bois et métal noir à seulement 49,99 € au lieu de 59,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, bon bah...
T'arrêtes de me faire mariner, oui.
Désolé, mais en ce moment, les deux pavés de bœuf marinés aux trois poivres sont à 3,29 €.
€3,29 les 260 grammes, moins 14%.
3,29 les deux pavés marinés. Oh la vache.
Ah oui, et de la viande bovine française, hein.
Oh, t'es mal, toi.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 80 références de viande et volaille. 12,65 € le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 21 septembre. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Les coulisses de l'info, les coulisses de l'info, juste après le journal permanent, Alban Leprince.
On ne s'improvise pas acteur de la vie politique. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, se montre très sévère vis-à-vis d'Éric Zemmour. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce matin. Éric Zemmour, qui a assuré aussi ce matin à la télévision, hésiter quant à une possible candidature. Ce sont désormais 4 départements qui sont en vigilance orange entre l'Hérault et la Drôme. Le Gard est toujours concerné et la personne portée disparue après une chute dans un cours d'eau hier soir a été retrouvée saine et sauve. Hier, un record absolu de précipitations a été enregistré, l'équivalent de 2 mois et demi en 3 heures. Les sanctions tombent. Dès ce matin, l'obligation vaccinale des personnels soignants contre le coronavirus entre en vigueur. Si près de 90% d'entre eux sont en règle, les autres s'exposent à une interdiction d'exercer et une suspension de salaire. Ce soir, dès 20h sur Europe 1, Lionel Rousseau vous propose de vivre en direct l'entrée en piste du PSG en Ligue des Champions. Paris se déplace à Bruges.
Europe Matin.
On va d'abord partir de ce triste constat. Les Français n'ont plus confiance dans la justice de notre pays. Seuls 48% d'entre eux disent avoir confiance dans l'institution judiciaire.
Vous avez reconnu la voix d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'était le 14 avril lors de la présentation du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Avec nous ce matin pour évoquer la justice, ses rapports avec la police, la question de la sécurité, Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint à la rédaction du Figaro, et Céline Parizeau, présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Si je brosse à gros traits la situation, Céline Parizeau, elle est la suivante. Éric Dupond-Moretti dit qu'il y a un problème de confiance des Français à l'égard de la justice qui en tient, les magistrats qui entretiennent des relations compliquées avec leurs camarades policiers qui leur reprochent, eh bien en gros, de détruire les résultats de leur travail, plus ce conflit interne à la justice entre les magistrats et leurs ministres. Je rappelle que celui-ci est actuellement mis en examen. Tout ça nous donne l'impression d'une machine qui est grippée finalement par quelque chose, comment dire, des conflits qui sont presque d'ordre corporatiste. Qu'est-ce que vous répondez à cette perception qu'ont beaucoup de Français aujourd'hui, Céline Parizeau ?
Non, je suis navrée qu'on puisse percevoir comme du corporatisme le fait que nous fassions du droit, parce qu'en fait, c'est notre métier, faire du droit. Faire du droit, c'est-à-dire appliquer la procédure, vérifier que chacun a bénéficié des garanties dont il doit bénéficier, que la loi prévoit, que chacun a respecté également les prescriptions que prévoit la loi. C'est pour ça que nous avons porté plainte contre ce ministre. Quand la police se plaint de la justice, malheureusement, elle est souvent entendu puisqu'il s'agit du traitement de faits divers, de choses qui touchent le quotidien des Français aussi, hein, la délinquance au quotidien. Malheureusement, d'une part, la qualité des procédures qui nous sont transmises fait qu'il est parfois difficile d'aboutir à une condamnation.
On revient à la procédure pénale, c'est-à-dire que les policiers aujourd'hui, il y a une baisse du niveau moyen de la rédaction, si je puis dire, des procès-verbaux.
C'est à peu près ça. Et puis, pour autant, nous ne pouvons rien l'un sans l'autre. Hein. Évidemment, nous nous alimentons, ils nous alimentent. Et si nous ne sommes pas alimentés correctement, nous ne pouvons pas traiter correctement. Et de toute façon, nous n'avons pas les moyens, et là, ça ne date pas de ce gouvernement, hein, ça date de dizaines d'années, la justice est maintenue dans un état de pauvreté endémique.
Maintenue par qui ?
Par les gouvernements successifs, par le pouvoir exécutif, qui l'empêche de traiter les affaires correctement.
Il y a une paupérisation volontaire de la justice.
Je rappelle que Jean-Jacques Urvoas, qui a été ministre de la Justice, parlait même de clochardisation de la justice. Certains avaient critiqué que c'était trop fort, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face.
Quelles sont les raisons de cela ? Est-ce que c'était budgétaire à une époque où il y avait une obsession de la dette publique qui, semble-t-il, n'est plus d'actualité, ou bien il y avait une volonté politique d'affaiblir l'institution judiciaire afin de la rendre impotente ?
Peut-être un peu des deux, mais la volonté politique d'affaiblir la justice, elle est clairement là. Je veux dire, la critique permanente est généralement infondée, mais peu importe, c'est un discours qui porte bien de la justice dans les médias par les politiques. Elle est extrêmement facile, justement parce que nous n'avons pas les moyens de nous défendre. D'une part, les moyens financiers de traiter les affaires correctement, et d'autre part, notre voix, mise à part par celle des syndicats, ne peut pas porter. Nous avons un devoir de réserve.
Vincent, je crois qu'il y a une autre grande difficulté qui est le fort contraste contraste entre la menace qu'affrontent les policiers et ensuite le traitement qu'on fait la justice au nom de l'état de droit. Il y a trois sécessions en France, si on regarde de près. Il y a d'abord une sécession dans certains quartiers de trafiquants de drogue. Ceux qui n'ont pas vu le film Bac Nord devraient aller le voir, ils comprendront ce que c'est. Et la police, dans ces cas-là, doit pratiquer quasiment des actes de guerre quand elle veut essayer de faire des opérations. La deuxième sécession, c'est le procès du 13 novembre, elle est djihadiste. Pareil, ce sont des actes de guerre qui ont été menés le 13 novembre, et la police qui doit affronter la menace terroriste se retrouve dans une situation de guerre. Et la troisième, c'est les forces révolutionnaires que l'on voit maintenant depuis 3 ou 4 ans, qui ont restauré la violence dans le champ social et politique, et qui veulent renverser l'idée de la violence légitime. C'est-à-dire que la violence d'État serait illégitime et une violence d'oppression, et la violence révolutionnaire serait la seule violence légitime qui libérerait de l'oppression. Ce que l'on a vu à la fin de certaines manifestations des Gilets jaunes, ce que l'on a vu dans des manifestations Antifa...
C'est très marginal, Vincent.
Non, ça n'est plus marginal. C'est devenu un phénomène rituel de pouvoir se payer du flic à la fin. Et à la fin de tout ça, le droit, et moi je suis un défenseur de l'État de droit, mais l'État de droit parfois évolue quand les situations se crispent. Et cette évolution n'a pas eu lieu. Et ça crée une crispation. C'est-à-dire que la personne qui se retrouve en première ligne a l'impression de participer à une guerre, et qu'ensuite, le traitement qui se fait est un traitement de pays paisible, en paix absolue, en prospérité totale. Et
oui, j'entends ce que vous dites, par exemple, sur les attentats du 13 novembre.
Il me semble que ce décalage, et à la fin même, on demande à la justice, et on voit qu'on demande au procès du 13 novembre des choses qu'il ne pourra pas donner.
Non, mais j'entends bien ce que vous dites.
C'est parce que c'est pas son boulot.
Oui. Nous appliquons le droit tel qu'il existe. Pas tel que les politiques ou les policiers aimeraient qu'ils existent.
Et il faudrait, si on prend la question des quartiers par exemple, cet euphémisme pour dire les zones de non-droit et les endroits où la police ne peut pas rentrer, il faudrait une volonté politique et une dureté judiciaire très forte, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour espérer pouvoir faire quelque
chose. Vincent, j'entends tout à fait ce que vous dites. Je comprends ceux qui disent que quelque part vouloir juger des djihadistes qui ne reconnaissent plus nos lois, effectivement, a quelque chose d'une certaine manière de dérisoire. Mais c'est notre société et c'est la manière dont nous traitons ce genre de problème. Mais pour revenir aux questions de la sécurité et à ce que disait Céline Parizeau à l'instant, à savoir on entretient de manière un petit peu artificielle cette rivalité, ces hostilités qu'il peut y avoir entre policiers et magistrats, alors qu'en réalité ils devraient travailler main dans la main, ce qu'ils devraient faire, mais la justice ne peut pas finalement faire son métier qui est de faire du droit. Et de l'autre côté, j'entends tout à fait aussi ce que l'on dit, à savoir qu'il y aurait une sorte d'agenda politique des juges, qu'il y aurait une pénalisation du pouvoir politique. Bon, c'est quelque chose de très ancien.
Oui, alors ça c'est encore un autre phénomène, mais moi je pense que ce à quoi il faut faire attention quand on est, comme c'est mon cas et comme la majorité des Français, attaché à l'état de droit, à ce que la notion d'état de droit ne soit pas le synonyme de faiblesse et de pusillanimité. Parce que c'est ça que ça devient. C'est ça qui commence à entrer dans les esprits, et c'est pour ça qu'on voit la course à l'échalote de propositions de plus en plus excessives. Il me semble que si le droit s'ajustait à la menace, on serait pas obligé d'arriver à de tels excès ou de telles propositions qui sont finalement inapplicables.
Céline Parizeau, justement, à propos de ce reproche qui vous est fait, l'état de droit qui viendrait finalement contrarier la liberté, tout simplement.
Je trouve ça dramatique. L'état de droit, c'est justement la garantie de la liberté. C'est la garantie que vous ne serez pas jugé n'importe comment, que vous ne serez pas arrêté n'importe comment, que vous aurez la possibilité de vous défendre. Donc, il n'y a pas d'opposition à faire entre la garantie des libertés et l'état de droit. C'est strictement la même chose.
Mais est-ce que l'état de droit n'empêche pas la sécurité d'une certaine manière? Quand on le voit, par exemple, sur les questions d'immigration, sur les questions de délinquance, quand quelqu'un est relâché alors que l'on connaît son parcours de délinquance ou criminel, mais que sur de simples problèmes de procédure, il est relâché.
Tout simplement parce que tous les citoyens ont les mêmes droits, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient français, qu'ils soient politiques ou ministres ou simples citoyens. Je pense que c'est la garantie pour tout le monde que le droit s'applique et que chacun a les mêmes possibilités de se défendre, mais aussi les mêmes responsabilités. C'est-à-dire que quand on commet une infraction, quand on commet un délit, qui que l'on soit, on devrait pouvoir être sanctionné.
Merci Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, et Vincent Trébollet de Villers, le directeur adjoint à la rédaction du Figaro, étaient les invités des coulisses de l'info.